Vous savez qu'en France, on a des belles cathédrales, des monuments magnifiques, et ce sont des constructions qui ont été faites pour la plupart au moment du Moyen Âge. Et il y avait une tradition, lorsqu'au Moyen Âge, on construisait une cathédrale, on scellait à la base d'un des murs solides un anneau de fer. Et cet anneau était appelé l'anneau de salut. Il suffisait à un malfaiteur de le saisir pour être momentanément à l'abri des poursuites. Et tout autour de la cathédrale et dans la cathédrale, il y avait un espace de salut qui était délimité autour de cette cathédrale et qui constituait finalement un lieu d'asile sur lequel personne ne pouvait être arrêté. C'était des lieux d'asile et c'était la reprise de quelque chose dans l'Ancien Testament que vous connaissez bien qui s'appelait les villes refuges. Et je voudrais vous lire ce passage en Nombre 35, versets 11 à 12. Et c'est un commandement du Seigneur. L'Éternel parla à Moïse et dit « Vous déterminerez des villes qui soient pour vous des villes de refuge, où pourra s'enfuir le meurtrier qui aura tué quelqu'un involontairement. Ces villes vous serviront de refuge contre le vengeur du sang, afin que le meurtrier ne soit pas mis à mort avant d'avoir comparu devant la communauté pour être jugé. » Et en fait, ces villes-refuges, comme cet anneau du salut du Moyen-Âge, permettaient aux gens qui étaient pourchassés pour un crime qu'ils n'avaient peut-être pas commis, de ne pas être immédiatement passés par les armes, car à l'époque, la justice était plus que sommaire et les gens se faisaient justice eux-mêmes. Et donc, c'était ces mesures permettaient d'adoucir un peu la sévérité de la justice d'alors. Et vraiment, elle s'inspirait de ces passages des villes-refuges. Et les meurtriers qui s'y réfugiaient, eh bien, pouvaient ensuite y rester jusqu'à ce que la preuve soit faite qu'il n'ait pas tué volontairement. Aujourd'hui encore, eh bien, évidemment, on a tous besoin de villes-refuges pour échapper au jugement de Dieu, non seulement pour nos fautes involontaires, parce qu'on en commet, que pour tous nos actes de désobéissance à Dieu. Et vous, comme moi, nous avons tous un jour reconnu que nous étions coupables pour telle ou telle chose que nous faisons et qui aurait mérité la condamnation divine. Et on a ça dans nos vies de chaque jour, dans notre travail. Combien de fois vous n'avez pas été amené à faire une petite entorse à la vérité en se disant « qu'est-ce que je fais ?» Parfois on le fait involontairement et parfois on le fait volontairement. Et souvent, notre vie peut être une continuelle suite d'offenses à Dieu dont on ne se rend pas compte, hein, mais parfois on s'en rend compte aussi. Et souvent, ces erreurs sont motivées par notre égoïsme ou par notre orgueil. Et alors, qu'est-ce qu'on fait dans ces moments-là? On va saisir l'anneau du salut. L'anneau du salut, c'est-à-dire la main que Dieu vous tend, qu'il tend vers les hommes et dans lequel nous mettons notre confiance. Alors, bien sûr, c'est imagé, mais je trouve que l'image était intéressante de voir ce salut qui était offert à tous. Et vendredi soir, on a fait l'espace café, ou plutôt l'espace limonade, parce que je faisais très, très chaud. Et on a vu arriver un monsieur qui commençait à parler. Et puis, il m'a dit, on a vraiment besoin du salut de Dieu, parce qu'on pêche tous les jours. Et puis, il me dit, est-ce que vous pouvez me donner une Bible? Je lui ai donné une Bible. Et il a été tout de suite chercher le psaume 51. C'était quelqu'un qui connaissait bien. Et je sentais qu'il avait besoin d'avoir une confirmation. Et on va lire ensemble ce psaume 51. Et il me l'a fait lire. Il m'a dit, lisez. Je vais lire. Et c'était intéressant de voir ça. Et c'est de là qu'est venue un petit peu mon idée pour l'exhortation. On rencontre des gens qui sont dans la tristesse et dans la galère, des gens qui peut-être pour la journée d'aujourd'hui, ont simplement parlé avec quelqu'un. C'est quelque chose d'extraordinaire. Psaume 51. Ô Dieu, fais-moi grâce selon ta bienveillance, selon ta grande compassion. Efface mes crimes. Lave-moi complètement de ma faute et purifie-moi de mon péché, car je reconnais mes crimes et mon péché est constamment devant moi. J'ai péché contre toi seul, et j'ai fait le mal à tes yeux, en sorte que tu seras juste dans ta sentence, sans reproche dans ton jugement. Voici, je suis né dans la faute, et ma mère m'a conçu dans le péché. Mais tu prends plaisir à la vérité dans le fond du cœur. Au plus secret de moi-même, fais-moi connaître la sagesse. Purifie-moi avec l'hysope, et je serai pur. Lave-moi, et je serai plus blanc que neige. Annonce-moi la félicité et la joie, et les eaux que tu as brisées seront dans l'allégresse. Détourne ta face de mes péchés. Efface toutes mes fautes. Ô Dieu, crée en moi un cœur pur. Renouvelle en moi un esprit bien disposé. Ne me rejette pas loin de ta face. Ne me retire pas ton Esprit Saint. Rends-moi la joie de ton salut. Et qu'un esprit de bonne volonté me soutienne. J'enseignerai tes voies à ceux qui se révoltent, et les pécheurs reviendront à toi. Ô Dieu, Dieu de mon salut, délivre-moi du sang versé, et ma langue acclamera ta justice. Seigneur, ouvre mes lèvres, et ma bouche proclamera ta louange. Car tu ne prends pas plaisir au sacrifice, autrement j'en donnerai. Tu n'agrées pas d'holocauste. Les sacrifices agréables de Dieu, c'est un esprit brisé, un cœur brisé et contrit. Ô Dieu, tu ne le dédaignes pas. Répands par ta faveur tes bienfaits sur Sion, bâtis les murs de Jérusalem, alors tu prendras plaisir aux sacrifices de justice, aux holocaustes, aux victimes tout entières, alors on offrira des taureaux sur ton autel. Lorsque je lisais ça, je me disais, qui suis-je pour aller leur annoncer l'évangile? Je me reconnais tellement dans ce psaume. Mais il y a une véritable complicité. On était tous les deux, ce monsieur et puis moi, deux pécheurs devant Dieu. C'était assez intéressant de voir ça. Mais on voit dans ce psaume quelque chose qui peut nous aider à avoir cette relation forte que nous devons avoir avec Dieu. Tout d'abord, eh bien, il y a la confession. Hein. C'est la personne qui confesse ses erreurs et ses péchés. Ensuite, il y a l'offre du salut, hein, cet anneau de salut, cette ville refuge où nous pouvons aller. Il y a la connaissance divine. Pour que le psalmiste dise ça, il faut qu'il connaisse bien Dieu. Le monsieur qui était à côté de moi connaissait bien Dieu. Et puis, il y a cette notion donc de purification, que Dieu va purifier, mais aussi que dans cette purification, eh bien, il y a une responsabilité, hein, qui est la sanctification. C'est toujours bizarre de dire que le salut, on l'a comme ça, par grâce, et c'est vrai. On ne peut rien faire pour ça. Mais l'apôtre Paul nous dit cependant, travaillez à votre salut. Alors, ça semble un petit peu contradictoire, mais simplement, lorsque nous convertissons, lorsque nous changeons de vie, il y a l'apôtre Paul qui nous dit en Thessaloniciens, 1 Thessaloniciens 4, verset 3, ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. Alors, finalement, sous l'influence à la fois parfois cachée et puissante de l'Esprit de Dieu, eh bien, un retournement s'est fait en vous, un changement s'est passé. Vous avez donné votre vie, à votre vie une nouvelle orientation. Alors, je dirais direct du mot, vous vous êtes converti. Hein, vous avez changé de voie. Alors, à quoi cela va-t-il servir si on doit en rester là? Eh bien, une décision qui n'est pas suivie d'exécution, et elle est sans force et sans valeur. Vous savez, quand vous dites quelque chose à quelqu'un, si on sait que vous êtes un homme de parole, il l'a dit, il va le faire. Mais si on sait que vous êtes quelqu'un qui dit beaucoup de choses, mais qui ne fait rien, On va pas croire. Eh bien, c'est un peu la même chose. Une décision qui n'est pas suivie d'exécution, elle est sans force et sans valeur. Et bien vite, eh bien, cette décision, elle s'efface, elle s'annule. On a bien sûr résolu, lorsqu'on s'est donné au Seigneur, de résister au mal, que la tentation vienne du dehors ou du dedans. Tous les jours, vous allez avoir la possibilité de résister à cette tentation. Tous les jours, dans le travail, dans les études, dans vos relations que vous avez avec les gens qui sont autour de vous. L'apôtre Paul nous dit, vous dépouillerez le vieil homme. C'est-à-dire que l'homme que vous étiez avant, il va pas disparaître automatiquement comme ça. Il va falloir faire des efforts. C'est pour ça que l'apôtre Paul dit, travaillez à votre salut. Le salut, il est là, mais on va le peaufiner, le travailler pour que ça soit quelque chose d'agréable à Dieu. Et on va revêtir l'homme nouveau. C'est-à-dire que l'homme que vous allez devenir, ou la femme que vous allez devenir, eh bien, va pas apparaître magiquement, hein. Ne croyez pas que le lendemain de votre baptême ou de votre conversion, vous allez dire, ça y est, c'est impeccable, j'ai plus aucun problème. Je peux vous dire que après 30 ans, on a encore des problèmes. Et peu à peu, eh bien, ce nouvel homme, cette nouvelle femme, eh bien, va se former, et puis les choses vont changer. Et c'est un travail intérieur, un travail sur vous-même, qui va vous amener progressivement à la sainteté. Alors, c'est un bien grand mot, dire qu'on va arriver à la sainteté. Eh bien, c'est la sanctification. C'est ce qui vous permet d'arriver au plus proche de ce que Jésus est. Alors, c'est sûr, c'est un objectif qui est tellement haut que, mais il ne faut pas désespérer, l'Esprit Saint est pour nous. La sanctification, c'est la condition, je dirais, pour avoir une réelle et une pleine communion avec Dieu. Et par conséquent, pour pouvoir participer à ses promesses. Il ne faut pas oublier que sans la sanctification, nul ne verra le Seigneur. Donc, il faut être conscient de ses soucis, de ses problèmes, et puis il faut être conscient que nous avons un travail à faire en nous. Et c'est un travail de tous les jours. Et quand on dit travail, eh bien, on pense à ouvrier. Nous sommes des ouvriers avec Dieu. Nous sommes transformés, nous dit l'apôtre Paul, par l'action de l'Esprit Saint, mais ça serait une erreur profonde et un découragement continuel de croire que nous allons nous sanctifier par nos propres moyens. Pour manifester et pour déployer la vertu que Dieu veut en nous, eh bien, il va nous aider. Il va nous envoyer l'Esprit Saint qui va nous guider et qui va nous dire non, ça tu peux pas faire. Pourquoi? Parce que Dieu n'aime pas. Et alors, Dieu veut pas simplement que nous soyons consentants, c'est-à-dire, bon, oui, d'accord, il réclame tout notre concours, il veut notre collaboration. Il n'agira pas sans nous, mais il agira avec nous. Nous devons être des ouvriers avec lui. Il y a donc des efforts à faire, et on l'a vu déjà, l'Écriture donne tellement d'exemples où il faut faire des efforts pour arriver à la sainteté. Des efforts pour vaincre et chasser le mal, des efforts pour saisir et faire sien ce qui est bien, des efforts pour lesquels Dieu va nous armer, mais sans lequel Dieu ne pourrait rien sans nous. C'est incroyable. Dieu va nous aider, il va nous donner ce qu'il faut, mais si vous ne voulez pas, il ne pourra rien faire. Cette relation que nous avons avec Dieu n'est pas une relation d'esclave à maître, mais c'est une relation de confiance. C'est un père que nous avons. Alors, il faut voir, ce sont des efforts qui vont être renouvelables et persévérants. Et combien de fois, chacun là dans sa vie, vous retombez souvent dans les mêmes travers, les mêmes difficultés. Je pensais vraiment avoir réglé ce problème-là, et le voilà qui revient avec moi. Et donc il faut persévérer. Et la parole nous dit que seul celui qui aura persévéré jusqu'à la fin sera sauvé. Et c'est Jésus qui nous dit ça. Donc la persévérance, il faut faire des efforts. Et Il faut en faire continuellement, de toutes sortes, de toutes choses. Vous savez, dans vos vies, vous faites des efforts pour des choses, hein. Moi, le lundi matin, c'est un effort que je fais pour aller travailler. Tout le monde, le dimanche soir, il y a la petite angoisse de dire, demain. Karl me disait qu'après l'église, il pensait déjà au travail le lundi matin. Et c'est vrai, il faut des efforts. Et nous faisons des efforts dans nos vies pour des tas de choses. Alors, pour la chose la plus importante, pour la chose qui est la plus nécessaire, eh bien, est-ce qu'on va refuser de faire des efforts? Est-ce qu'on va refuser d'avoir cette couronne incorruptible? Et ce sont des exemples de tous les jours. Et tous ceux qui travaillent ont déjà eu ça. La dernière anecdote, je vais vous la raconter. Quelqu'un me téléphone en me disant, bon, je vous connais par quelqu'un d'autre. Est-ce que vous pouvez me faire un faux certificat pour que la personne puisse ramener son chien? Je dis non, je ne peux pas. Vous me demandez de faire un faux. Ah bon? Elle dit, bah, ça se fait vraiment. Je dis oui, peut-être. Mais je peux pas. Ma signature n'est pas quelque chose de bidon. Et la dame avait l'air choquée au téléphone. On le fait normalement. Je dis non, je ne peux pas. Mais toute petite chose. Mais vous avez ça tous les jours. Donc ne croyez pas que vous êtes les seuls à vous bagarrer et à lutter avec ça. On est tous comme ça. Et là, il faut vraiment vous dire, bon, qu'est-ce que je fais? Est-ce que c'est bien ou est-ce que c'est mal? Et souvent, c'est pour ça que l'Esprit Saint est là pour nous aider à nous éduquer par la lecture de la parole, mais aussi par l'Esprit Saint qui nous donne la solution. Il faut croire à ça. Dieu va nous donner les armes, mais il faut que nous soyons collaborants. Alors, en guise de conclusion, je vais simplement vous lire deux petites prières que j'ai trouvées dans un ouvrage et que je trouve très belles pour nous encourager à vivre cette sanctification. Donne-nous, Seigneur, de voir ce que tu veux concernant notre personne. C'est que tout ce qui t'est contraire et qui nous est contraire en soit retranché. C'est que tout ce qui est selon ta volonté sainte s'y trouve, afin que nous soyons parfaits et accomplis, et qu'il ne nous manque rien, que chaque jour nous nous appliquions à ressembler davantage à Jésus-Christ, ton Fils, au nom duquel nous t'invoquons. Seigneur, tu nous appelles non seulement à nous préoccuper de notre salut, mais à y travailler en usant de clairvoyance et de fermeté, à y travailler d'une manière suivie et fidèle. Viens donc nous armer pour le bon combat et selon les promesses que tu nous as faites en Jésus-Christ, ton Fils, nous mettre en mesure de t'appartenir et de te servir. Amen.